Ouais, tu pouvais pas vider le lave-vaisselle avant que ça commence.
Ah non, Mimi, moi je vide pas, je présente l'agité du local.
Le vendredi, c'est un jour un peu particulier. On est déjà plus tout à fait dans la semaine, mais pas encore dans le week-end. C'est ce moment à part où l'on regarde derrière soi sans vraiment savoir ce qu'on cherche. Ici, on ne tourne pas les pages d'un album photo, on rouvre les micros de la semaine, des voix, des sons, des rires, des silences, des traces minuscules qu'on croyait parties et qui soudain reviennent faire du bruit dans la mémoire. Le best-of du vendredi, c'est un peu ça, un banc pour faire pause et ce geste que je vous propose, tendre l'oreille vers ce qui a déjà eu lieu. C'est pas de la nostalgie, non, plutôt une manière de dire que ce qu'on a vécu mérite qu'on y repasse. Bienvenue dans l'agité du local version retour en arrière, c'est le best-of. Ici, les souvenirs ont un micro et la semaine recommence à parler. Mardi, Vendredi sur Mer était avec nous à l'occasion de sa venue, ce soir, sur la scène du 6x4. Vous l'avez manqué ? Eh bien, ça tombe bien puisqu'on le réécoute maintenant.
Vous écoutez l'agité du local.
Et c'est sur l'autre radio. Vous savez, il y a des gens qui changent de costume comme d'autres changent de maison. Pour d'autres saisons, on se demande est-ce qu'on est toujours la même personne quand on déménage, quand on s'éloigne, quand on revient. Est-ce qu'on se transforme ou est-ce qu'on se retrouve? Vendredi sur mer a été une Vénus, elle s'est rêvée algue. Et la voilà qui dit aujourd'hui, c'est moi, dans ce nouvel album, Malabar Princesse. Alors qu'est-ce que ça veut dire être soi quand on écrit des chansons? Est-ce que c'est se raconter? Est-ce que c'est inventer un rôle pour mieux se protéger? Est-ce que c'est revenir là où tout a commencé, dans les montagnes et dire « je n'ai jamais vraiment quitté cet endroit ». Entre les vagues et les montagnes, où en est Vendredi sur mer? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Charline Mignot, alias Vendredi sur mer. Bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour.
Alors on vous retrouvera à Laval sur la scène du 6x4 ce vendredi 17 octobre. Mais avant, pour apprendre à mieux se connaître, j'ai envie de vous demander d'où vient ce pseudonyme si évocateur Vendredi sur mer? Qu'est-ce qu'il portait au départ et qu'est-ce qu'il raconte encore de vous aujourd'hui, peut-être?
Alors c'est un nom que j'ai choisi un peu par hasard. J'avais envie de quelque chose qui soit comme un personnage, comme vous avez pu le dire au début. Quelque chose qui raconte autre chose que ma propre personne, on va dire. Et j'ai juste assemblé des mots qui me paraissaient être jolis et comme si c'était la première histoire, finalement, avant les chansons. Donc voilà, j'ai créé Vendredi sur mer comme ça, un peu par hasard.
Alors, vos débuts étaient très marqués par le parler-chanter, puis est venue une voix un peu plus chantée dans Métamorphose. Dans Malabar Princesse, vous semblez trouver un peu un équilibre. Comment est-ce que vous définiriez votre musique aujourd'hui?
Bah, je dirais qu'à chaque fois, en tout cas, j'essaye de... je fais ce que j'ai envie de faire à chaque album, donc c'est toujours très différent. J'ai pas envie de m'ennuyer, j'ai pas envie d'ennuyer les gens non plus à refaire les mêmes choses. Au début, je parlais beaucoup parce que je me... prétendais pas forcément chanteuse, j'avais pas forcément décidé de faire une carrière dans la musique, donc j'étais peut-être un peu plus timide. Et puis de fil en aiguille, j'ai pris peut-être plus confiance et j'ai aimé commencer à chanter un peu plus. Et puis voilà, et de fil en aiguille, et ben les influences musicales, les références, les envies changent et donc j'ai commencé à chanter de plus en plus.
Quand on écoute vos chansons, on entre dans un monde très particulier entre la parole, la poésie, la pop. Si vous deviez inviter quelqu'un qui ne vous connaît pas à pousser justement la porte de cet univers, par quelle chanson vous aimeriez qu'il commence?
C'est compliqué parce que quand on fait des concerts, par exemple, je me dis toujours avec mes musiciens qu'il y en a un peu pour tous les goûts. Il y a autant des références techno que des références très variétés françaises, des références plus Vladimir Cosma. Donc honnêtement, je sais pas trop, ça dépend. Je dirais que... j'en ai aucune idée. Je pense que ça dépend vraiment si la personne a envie de quelque chose de plus intense, plus brut, plus noir, profond. J'irais vers Métamorphose, le deuxième album. S'il a envie de quelque chose de plus rock, pop, un peu plus variété, le troisième. Et s'il a envie de quelque chose de plus 70s, disons, plus romance, voilà, romancé, etc., j'irai vers le premier album, Promisez-moi. Donc ça dépend vraiment.
Vous avez écrit vos trois albums comme un peu trois incarnations. Vous allez me dire si c'est juste une Vénus dans Premiers émois, une algue dans Métamorphose. Et aujourd'hui, vous semblez être plus vous-même. En tout cas, c'est ce que vous dites en interview. Qu'est-ce qui a rendu possible ce passage, peut-être du personnage à l'intime ?
Je pense que, en tout cas, les deux... La première version de Vendredi sur mer, effectivement, c'était plus une Vénus... C'était très rose, très édulcoré. Et donc, sur le deuxième album, j'avais envie, après beaucoup, beaucoup de concerts aussi, d'avoir quelque chose de plus brut sur scène. C'est parti de là. Et donc, c'est vrai qu'il y a un gap immense entre le premier et le deuxième album, même sur, effectivement, le personnage, entre guillemets, enfin, comment j'incarne ces deux albums. Parce que j'avais envie d'aller complètement ailleurs. Et puis là, sur ce troisième album, ça part aussi de ce que j'ai envie de raconter sur l'album. Cet album, il parle de mes montagnes, de ma famille, de mes racines, d'où je viens. Et donc, c'était très logique d'être juste très simple. J'avais pas du tout envie d'être un personnage particulièrement, parce que c'est pas ça que je racontais dans cet album. Donc c'est un peu lié à ce que je raconte. Ça se développe, en tout cas l'image se développe une fois que la musique est là, quoi.
Justement, vous venez de le dire, Malabar Princesse vous ramène dans vos montagnes suisses. Qu'est-ce qui vous manquait ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de renouer avec vos origines, en tout cas d'en parler dans un album ?
Ça s'est fait assez naturellement. J'avais beaucoup de mal à commencer à écrire ce troisième album. Donc, je suis partie 2 mois à Montréal. Et puis, je me suis dit, allez, Charline, ça fait quand même un an que t'es un peu bloquée, t'écris des chansons, mais t'es pas sûre. Il y en a plein que j'avais mises de côté et tout ça. Et donc, je suis partie à Montréal et en me disant, reviens au moins avec 10 chansons, même si elles sont pas terminées, 10 chansons que tu as commencées et sur lesquelles tu te projettes. Et finalement, je suis revenue avec une seule chanson, et c'était Malabar Princess, et c'est celle qui, justement, racontait mes montagnes et l'envie d'y retourner. Et donc c'est parti de là, et je me suis dit, effectivement, puisque mes chansons racontent ma vie, en fait, j'invente rien, c'est vraiment, donc c'est pour ça que c'est aussi souvent très différent. Et je me suis dit, si c'est ça que tu dois raconter, c'est parce que tu as besoin d'y être. Et donc voilà, c'était 2 ans et demi que je suis beaucoup dans mes petites montagnes et que j'avais besoin d'y retourner, en fait.
Quand un album se construit, j'imagine qu'un artiste écrit énormément de chansons et après vient le moment de la sélection. Est-ce que ça a été un moment difficile ou est-ce que ça a été plutôt une évidence pour vous ?
Ça reste quand même assez évident, le choix des chansons. On sait quand on... Après, il y a parfois des surprises et des chansons sur lesquelles qu'on a commencé, qu'on n'arrive pas à terminer. Puis un jour, il y a quelqu'un qui rentre dans la boucle et qui dit « Ah, mais si on voit la chanson de telle manière, si on rajoute une guitare ou qu'on la fait un peu aller vers quelque chose de plus pop ou enfin j'en sais rien, ça peut transformer une chanson et donc elle renaît finalement. Mais pour le coup, après, c'est vraiment assez logique, c'est assez facile de choisir ça. Ça vient à nous, quoi. Donc il y en a qu'on laisse de côté et puis qu'on... Enfin, j'en ai jamais repris une chanson qui traînait comme ça dans mon ordi pour le remettre sur un album, mais c'est possible, ça peut marcher.
La pochette de l'album vous montre rouge au milieu des montagnes, comme un petit chaperon rouge un peu dans l'immensité des montagnes suisses. Quelle histoire vous vouliez raconter à travers cette image-là et comment est-ce qu'on pense le visuel d'un album ? Je trouve ça toujours intéressant de se dire que ça va être la première impression de ce que ça va raconter avant même qu'on écoute les titres. Comment est-ce qu'on le pense, ce visuel-là ?
Alors, bah, je savais exactement où je vais faire cette photo. C'est un endroit que j'adore et donc je voulais faire cette photo à cet endroit précis. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai imaginé, je pense, comme une espèce de palette de couleurs primaires. J'avais envie qu'il y ait un contraste, enfin, même pas que des couleurs primaires d'ailleurs, mais qu'il y ait un contraste entre le vert, le rouge, disons des couleurs complémentaires. J'imaginais ça. Après, moi, je m'imaginais vraiment au loin, un petit point rouge, très loin. Mais finalement, c'est celle-là qui était la plus parlante. Et donc, voilà, mais il y a eu plein de tests. Et puis, surtout, j'avais envie de passer 5 jours avec mes amis et Coup de Chérie, qui sont un duo de photographes, ma styliste, enfin, vraiment m'entourer de mes amis et de partir, de les amener chez moi pendant une semaine. Donc, on a vraiment juste marché tous les jours, quoi. Et on a fait ces photos au fil du temps, quoi. Les photos de tout le vinyle, des covers, des singles et de la pochette, des photos de presse, etc. On a vraiment tout fait sur ces 7 jours. Et voilà. Je sais pas comment cette idée, en tout cas, m'est venue, mais j'avais visualisé dans ma tête le ciel bleu, les montagnes grises, l'herbe bien verte et puis cet impaire rouge. Je trouvais que ça matchait plutôt.
Alors, au moment où vous vous lancez dans l'écriture d'un album, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est comme se mettre au travail ou est-ce que c'est quelque chose qui surgit de manière plutôt viscérale et instinctive pour vous?
Alors, je dirais que si on veut rester dans un ordre de, comment dire, un temps assez, comment je peux dire, un temps, comment dire, qui est plus normal, c'est-à-dire, en général, c'est un album tous les 3 ans, donc faut qu'on se remette à la tâche après la tournée assez rapidement pour pouvoir écrire cet album et le sortir. Mais après, c'est pas une science exacte, donc parfois ça prend plus de temps que d'autres. Et je sais que j'ai parfois, il me suffit d'une, là ça a été Malabar Princess la chanson, et il me suffit d'une chanson, une fois que j'ai compris ce dont je voulais parler, je tire juste le fil et puis là c'est assez rapide. Mais c'est effectivement parfois compliqué de commencer, de débuter un album, parce que faut trouver ce qu'on a envie de raconter aussi. On va pas raconter n'importe quoi juste parce que, enfin, moi en tout cas, j'ai pas envie de raconter des trucs nuls juste parce qu'il faut que j'écrive une chanson, quoi. Donc il faut tirer ce fil quand on l'a, et puis voilà. Donc, c'est pas une science exacte et parfois c'est un peu frustrant d'ailleurs, mais voilà.
Vous dites que vous écrivez seulement sur ce que vous vivez. Est-ce que c'est difficile de transformer l'intime en chanson qui parle aussi aux autres, ou finalement est-ce que c'est une évidence?
En tout cas, je me pose pas trop de questions. Alors pour moi, c'est plutôt facile. Enfin, si c'est quelque chose qui m'anime vraiment et dont j'ai besoin de parler, que j'ai besoin d'écrire, c'est assez facile. Et en fait, je me suis rendu compte au fil du temps, sur les premiers concerts que je faisais il y a presque 10 ans maintenant, je me disais, mais qui a envie d'écouter mes histoires? Et puis surtout, ça me faisait peur. J'avais l'impression de raconter ma vie privée à 200 personnes au début qui étaient dans la salle, et donc c'était très étrange. Et en fait, finalement, je me suis rendu compte que une fois que les chansons ne nous appartiennent plus, qu'elles sont sur les plateformes, c'est pas notre chanson, c'est la chanson de tout le monde, en fait. Et puis chacun y entend sa propre histoire. C'est assez universel. Quand c'est des chansons d'amour, etc., c'est quand même assez universel. Donc ça finit par ne plus être totalement mon histoire, mais celle des autres.
Quand on écoute des artistes justement qui se racontent dans l'intime, souvent on y met nos propres petites failles, nos propres petites histoires à nous. Quels sont pour vous les artistes passés ou présents qui vous accompagnent vraiment dans ce que vous écoutez aujourd'hui et qui nourrissent peut-être aussi votre manière d'être au monde autant que votre musique?
Moi, j'ai eu la chance d'avoir un... Mon papa écoutait beaucoup, beaucoup de musique quand j'étais petite, donc j'ai écouté des tonnes de choses et très, très différentes. Je suis quand même attachée à tout ce qui m'a fait écouter, mais je dirais pas que ça influence totalement ma musique, parce que c'est quand même très, très lointain. Souvent, ça va des Pink Floyd à Barbara, passant par Renaud, Manu Chao. Enfin, vraiment, c'est hyper large. C'est assez, assez loin de ce que moi, je peux faire. Mais en tout cas, ça, c'est des artistes qui me suivent depuis que je suis petite et encore aujourd'hui, ça, c'est sûr.
Je le disais au début de cet entretien, on aura le plaisir de vous retrouver sur la scène du 6x4 le vendredi 17 octobre. Pour terminer, qu'est-ce qui change pour vous dans l'interprétation d'un morceau quand il passe du disque à la scène ?
Ah, beaucoup de choses. C'est une bonne question parce que c'est vrai que... je les écoute beaucoup mes chansons quand je les écris, quand on les compose et qu'on les termine. Mais une fois qu'elles sont terminées et qu'elles sont sorties, je les écoute jamais. Et donc, je les écoute que quand je les chante moi-même en concert. Et donc, parfois, ça m'arrive en devant créer des setlists pour les concerts. Donc là, l'ordre des chansons. Je fais une playlist sur les plateformes pour essayer de voir ce qui peut marcher ensemble, etc. Et puis, donc, j'écoute les chansons et je me dis, oh, mais pourquoi je l'ai chantée comme ça ou pourquoi je l'ai dite comme ça ? Je la chante plus du tout comme ça et elle vit plus du tout comme ça. Donc, elle est hyper différente en live. Et c'est ça que j'aime, c'est de pouvoir réinventer ses chansons, d'ajouter des choses, de pas avoir quelque chose de lisse et de conforme à ce qu'on peut trouver sur l'album. C'est pas intéressant, je trouve. J'ai envie, moi, quand je vais voir un concert, de vivre quelque chose que je vis pas en écoutant le disque. Et surtout, j'ai envie de découvrir des chansons sur lesquelles je suis peut-être pas forcément, j'ai pas forcément accroché. Et où en live, je me les prends en pleine poire et que je les réécoute en rentrant chez moi et que je les entends d'une autre manière parce que je les vis en live. Et donc, c'est vraiment ça qui se passe en live. Et puis aussi, c'est une manière de ne pas s'ennuyer que de toujours recréer un peu des choses sur ces chansons, quoi.
Bien, en tout cas, merci Vendredi sur Mer d'avoir passé ce moment avec nous. Merci Charline. On vous retrouvera ce vendredi 17 octobre au 6x4. D'ici là, il y a cet album, donc Malabar Princesse, qui est comme une invitation, j'ai envie de le redire, à voyager entre les vagues et les montagnes. On a hâte de vous découvrir sur scène. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
L'autre radio, eh ben c'est la vie qui passe en direct.
Eh bien oui, on vient d'entendre Vendredi sur Mer parler de retour à soi, de paysages retrouvés, d'un album devenu ancrage après tant de métamorphoses. Eh bien maintenant, j'ai envie d'en écouter avec vous un extrait. Voici Malabar Princesse.
Par quel chemin les retrouver? Ces montagnes et ces vallées que j'adorais. C'est comme si le vent les avait parsemées. Dans chaque endroit où je décide d'habiter, je ne sais plus par quel chemin me retrouver. J'ai le cœur en miettes, les idées épuisées. Tout est vite et moi j'ai fini par sombrer. Dans ce plan où tout à coup j'ai déraillé.
je décide d'habiter. Je ne sais plus par quel chemin me retrouver. J'ai le cœur en miettes, les idées épuisées. Tout est vite et moi je finis par sombrer dans ce blanc où tout à coup j'ai déraillé. Et maintenant
Je crois que dans le fond, à chaque fois que j'ouvre un livre, c'est pour trouver des pages qui me ressemblent. Le livre n'est plus seulement un objet de l'imaginaire, il devient pour moi boussole. Alors vous vous doutez bien que lorsque je croise un libraire, j'ai plaisir à l'entendre me parler de ses coups de cœur.
Aime lire en joue, à Château-Gontier, vous présente chaque semaine son coup de cœur littéraire. Pour les grands et les petits.
Bonjour à toutes et à tous, je vais vous parler sans doute de l'un des trois gros romans de cette rentrée littéraire. Je vous reparlerai peut-être du Natacha Appana ou du Laurent Mauvignier. Eh bien aujourd'hui, pas de surprise, je vais vous parler d'un livre dont on a déjà beaucoup parlé. C'est « Kolkhoz » de Emmanuel Carrère aux éditions POL. Pour vous dire les choses, j'y suis allé un petit peu à reculons. Je ne suis pas forcément un fan d'Emmanuel Carrère. Il a une bonne plume, mais voilà, je n'avais pas très très envie de le lire. Mais je me suis dit, parce que je suis quelqu'un de consciencieux et de professionnel, vous l'aurez remarqué, eh bien, je me suis dit, allez, il faut que je le lise, c'est un gros livre, mais c'est parti. Et j'ai été absolument conquis du début jusqu'à la fin. J'ai été passionné par ce livre. Très difficile à résumer, sinon que c'est peut-être le roman familial de la rentrée littéraire. Cet homme, Emmanuel Carrère, va revenir sur la relation qu'il a eue avec sa mère, mais aussi avec son père. Alors, ses sœurs aussi, c'est tout ce clan Carrère d'Ancos qui va être un peu scruté, mais qui ne va pas être décortiqué de façon lapidaire de la part d'Emmanuel Carrère. Non, non. Lorsqu'il va parler de sa mère, Hélène Carrère d'Ancos, académicienne, très grande spécialiste de la Russie, il va en parler avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup d'amour, c'était sa mère. Parfois, il va l'égratigner aussi sur ses choix, sur ses idées, sur son parcours. Mais en aucun cas, ça va être un règlement de compte. Et ça, ça m'a déjà plu. Il accorde une vraie connivence, il installe une vraie connivence avec le lecteur dans Kolkhoz. Donc, il y a une très bonne distance lorsqu'on lit ce livre. On n'est pas dans le pathos, on n'est pas dans le trop intime, parce qu'il y a beaucoup de pudeur dans ce qu'il raconte, mais on va être sur le portrait d'une femme, sa mère, qui était une femme incroyable, exceptionnelle, on peut le dire, parce que c'est une famille aussi exceptionnelle, une famille qui part de rien, qui a un arbre généalogique incroyable. Ça va être aussi l'histoire de l'évolution de la Russie, puisque Hélène Carrère d'Ancos était vraiment la très grande spécialiste en France de ce sujet. Voilà, j'ai trouvé ça passionnant. C'est c'est un livre que je n'ai pas pu lâcher. Pendant des heures et des heures, je l'ai avalé et j'en redemandais encore et encore. Donc voilà, je ne sais pas quel prix littéraire il aura, s'il en aura un, mais en tout cas, sachez qu'il ne faut pas passer à côté de Colcause, le nouveau livre d'Emmanuel Carrère aux éditions POL.
Retrouvez Aime lire en joue, 10 places Paul Doumer, à Château-Gontier, ou, et sur l'autre radio.
Place à la chronique Magnette, version grand écran, il a décidé de sortir la pellicule. Tiens, j'entends le bruit du projecteur, je vois un peu de grain sur l'image. Eh bien oui, nous voilà plongés, il semblerait, au cinéma.
La chronique de Magnette. Sur le groupe de
Bonjour, toi. Richard Patry, président de la Fédération nationale des cinémas français, a déclaré, lors du 80e congrès qui a eu lieu à Deauville, que la fréquentation dans les salles a baissé de 15%. Ouais, 15%. Qu'il manquait à peu près 18 millions de spectateurs fin août par rapport à 2024. C'est quand même important, ça. Bref, depuis 8 mois, ça va mal. Pourquoi ? Hein ? Je te pose la question, pourquoi ? Ok, il n'y a pas eu de grosses productions made in France, comme Le Comte de Monte Cristo, qui a fait quand même 9 millions de spectateurs, ou comme l'heureuse surprise du succès d'Un petit truc en plus, avec 11 millions. Est-ce une crise passagère ? La concurrence des plateformes n'est pas d'hier matin, et donc n'explique pas le problème. Pas plus que la météo coule. Pourtant, de très bons films sont sortis. Et ici, à Château-Gontier, comme dans pas mal de villes de province, une place de ciné ne coûte pas la peau des fesses. Cette expression me laisse toujours sans voix, la peau des fesses. Je crois te l'avoir déjà dit, et je n'ai pas envie de radoter, j'aime le cinéma. Rien à voir avec un film à la télé, et encore moins sur ton ordi, ou pire sur un portable, pourquoi pas un timbre-poste aussi. Même si tu fermes ton clapet, c'est pas le cas de tout le monde, hein, suivez mon regard, tu peux y retrouver tes potes, et après avoir regardé sur un vrai grand écran, écouter un son de haute qualité, tu prends le temps d'encaisser, puis de formuler ton avis, d'échanger, de conseiller à d'autres amis le bijou qui t'a transporté, ou le toc qui t'a déçu. Depuis tout môme, j'aime entrer dans un cinéma, et me souviens que d'une salle à une autre, l'odeur, l'atmosphère n'était pas la même. En plus, il s'agit d'un lieu de passage, donc de rencontre ou de retrouvailles. Je suis bien sérieux, moi, aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'arrive ? Ah si, je sais. Je sais. Apprendre que les Français vont en moyenne deux ou trois fois par an au cinéma, ça me laisse sur le cul. Retour à la peau des fesses. Non, sans blague. Et sans faire chauffer la carte bleue, je me vois mal attendre la Saint-Glinglin pour me poser à l'aise dans un fauteuil confortable, disponible comme une éponge, prêt à rire ou m'émouvoir, à remettre telle ou telle idée en question, prêt à revoir une magie pour tous les âges. Chut ! Non mais c'est vrai que tu fais du bruit en les bouffant tes pop-corn. Allez, bon ciné, topette. Tu vas trouver une vieille... fais-moi plaisir. Ah, putain, oui, c'est ça. Il y a dans Rio Bravo, il y a deux morceaux qui sont joués avec Dean Martin qui chante, et puis Ricky Nelson, avec le vieux, là. Le premier, Ricky Nelson joue à la guitare et c'est Dean Martin, enfin essentiellement Dean Martin qui chante. J'adore, mon fils aussi, j'adore ce morceau. Voilà, c'est ça, oui.
The sun is sinking in the west. The cattle go down to the stream. The red wing settles in her nest. It's time for a cowboy to dream. Purple light in the canyon, that's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony, and me. Gonna hang my sombrero on the limb of a tree. Coming home, sweetheart darling, just my rifle, pony, and me.
Whippoorwill in the willow sings a sweet melody. Riding to
Amarillo,
Amarillo,
just my rifle, pony, and me.
No more cow,
no more cow
to be roping,
to be roping.
No more stray,
no more stray
will I see
round the bend.
Round the bend,
she'll be waiting.
She'll be waiting
for my rifle, pony, and me. For my rifle, my pony, and me.
La chronique de la bête. Sur l'eau.
C'était une interview de Woody Allen, que j'aime beaucoup. Et Woody Allen, c'est Pivot qui lui posait la question, si vous étiez, si vous étiez une plante, qu'est-ce que vous aimeriez être? Et ça avait fait rigoler tout le monde, parce qu'il a dit une éponge. Et donc il rigolait. Et en effet, mais ça m'avait fait sourire d'intelligence, ce truc-là. C'est subtil comme réponse. Et puis avec la bouille de Woody Allen qui te dit ça comme un étudiant attardé, là, comme une éponge.
Le best-of de la semaine, c'est fini pour aujourd'hui. Et avant d'éteindre les micros, on jette un œil à ce qui vous attend sur les ondes de l'autre radio. La soirée démarre à 19h avec le Dance Hall Social Club, le club oldies par excellence, rempli de sucreries musicales du passé, des pépites oubliées et cette ambiance un peu moite des soirées d'hier qu'on aime retrouver. Tout de suite à 13h, c'est Cinérama, un mélange d'infos, de jeux et d'amour du 7e art avec Marine, Vincent et Emmanuel pour tester vos connaissances et vos souvenirs de cinéma. Demain, samedi à 13h, place à Rock Dreams qui nous plonge cette semaine dans l'univers ténébreux et élégant de Bauhaus. Et dimanche à 11h, eh bien, Sport Épique revient. C'est votre rendez-vous des passionnés de sport en Mayenne. Et d'ailleurs, avec débats, chroniques et bonne humeur sous la houlette de Benoît Moscato. Enfin, on terminera le week-end en beauté à 21h avec Jazz Attitude. C'est plutôt pas mal pour accompagner la fin du dimanche, n'est-ce pas? Moi, je vous dis à lundi pour une nouvelle émission de l'Agité du Local. Nous serons avec Jean-Yves Chevalier à Château-Gontier pour parler de l'université du savoir partagé. Et ensemble, on se posera une question. Apprendre, est-ce encore un acte citoyen? D'ici là, profitez du week-end. Ayez une attention pour quelqu'un qui ne l'attend pas. Oui, s'il vous plaît, faites-le bien.
Fin de l'émission, mais pas de notre histoire.
Ah ben, surtout pas, Mimi.